VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier au micro, en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du vendredi 2 février 2018. À la une ce soir au Togo, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition s'ouvre le 15 février à Lomé. Au Tchad, l'État prévoit des ponctions sur les salaires des fonctionnaires en grève. La police kényane a arrêté un autre membre de l'opposition après l'investiture symbolique de Raila Odinga. Et le président Donald Trump donne son feu vert pour déclassifier une note confidentielle malgré la réticence de la police fédérale. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Climat tendu au Tchad. Suite à de nombreuses manifestations et grèves au sein de la fonction publique, l'État ne prévoit pas le paiement des jours de grève. Les fonctionnaires protestent contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement, Raissa Girondin.
Au cinquième jour de grève générale des fonctionnaires, le gouvernement a annoncé qu'il va déduire les jours non travaillés sur le salaire des grévistes. Pour le Premier ministre Paimi Padake, tous les chefs de département doivent recenser les agents absents et retirer de leur salaire les jours de grève. Il a ajouté que les forces de l'ordre répondraient à toute sortie intempestive de jeunes instrumentalisés et manipulés politiquement. Lundi, les syndicats tchadiens avaient appelé à la grève générale et illimitée dans le secteur public. Les fonctionnaires ont découvert que leur salaire de janvier ont été réduits. Les récentes mesures d'austérité imposées par le gouvernement et la montée des prix du carburant ont été les déclencheurs d'une grogne sociale. Par ailleurs, une nouvelle plateforme syndicale exhorte les employés du secteur privé à observer 2 jours de grève à partir de lundi en solidarité avec les fonctionnaires.
Malgré un lourd passif en Centrafrique à la tête des milices anti-Balaka, le président de la Fédération Centrafricaine de Football, Patrice-Edouard Gaïssona, a été élu aujourd'hui au comité exécutif de la Confédération Africaine de Football. La Centrafrique, par ailleurs, demande à la République démocratique du Congo d'extrader Romaric, un des chefs des milices anti-Balaka de Bangassou. Romaric avait fui fin 2017 vers la RDC. Ils ont été arrêtés et se sont rendus il y a un mois à l'armée congolaise à Bouta, dans la province frontalière du Bawele, dans le nord de la RD Congo, d'après la MONUSCO. La République démocratique du Congo aussi demande l'extradition d'un ex-colonel congolais interpellé en Tanzanie. Le ministre de la Défense a confirmé que John Chibangu, accusé de rébellion armée, sera extradé, à moins que le gouvernement tanzanien s'engage à le faire juger et purger la peine requise. Burundi, un responsable du parti au pouvoir, menace de casser les dents de ceux qui feront campagne pour le non lors du référendum constitutionnel prévu en mai. Le président a dit publiquement que celui qui va faire la campagne pour le non aura franchi une ligne rouge et aura quitté le groupe des saints pour celui des criminels, a déclaré Revoka Ruberandzinzi, adjoint au maire de la localité de Butinda. Le référendum pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de diriger jusqu'en 2034. Au Togo, des représentants guinéens et ghanéens, pays médiateurs dans la crise, ont annoncé que le dialogue entre l'opposition et le pouvoir s'ouvrira le 15 février à Lomé, selon Jnia Moulissa.
Le ministre ghanéen de la Sécurité Albert Kane Dampa et le ministre d'État guinéen Thibou Kamara ont indiqué que cette date a été retenue de commun accord avec les principaux acteurs. Les médiateurs étaient à Lomé pour des consultations avec le gouvernement et la coalition de 14 partis d'opposition. Ce dialogue annoncé depuis début novembre 2017 par le gouvernement a eu du mal à démarrer. L'opposition a exigé des mesures d'apaisement comme le retour des forces de sécurité dans les casernes et la libération de personnes arrêtées. D'après les deux ministres, tous les acteurs togolais ont convenu de la suspension des manifestations à partir de la publication de la date du dialogue jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. Mais des milliers de personnes ont encore manifesté hier à Lomé et dans certaines villes pour protester contre l'accaparement du pouvoir par une seule famille des Nyansimbé depuis plus de 50 ans.
Au Sénégal, le tribunal correctionnel de Dakar s'est déclaré compétent pour juger le maire de Dakar, Ali Fassal, et 7 de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics. Après 2 semaines de débats de procédure, la justice a rejeté ses demandes de remise en liberté. Une nouvelle audience a été fixée à lundi prochain. Le partenariat mondial pour l'éducation est en très bonne voie d'être renfloué à hauteur de 3,1 milliards de dollars, a indiqué la présidence française lors de la conférence de ce fonds à Dakar. Le président français a demandé que l'aide soit particulièrement consacrée à l'éducation des filles. Nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission. Avant d'arriver au Sénégal, Emmanuel Macron était en Tunisie où des ONG l'accusent d'avoir ignoré le climat de plus en plus tendu en matière des droits humains. De nombreux journalistes tunisiens ont observé aujourd'hui une journée de colère à l'appel de leur syndicat pour protester contre des menaces et exactions policières après une série d'incidents récents. Une centaine de journalistes arborant pour la plupart un brassard rouge en signe de protestation se sont rassemblés devant le siège du syndicat. La police kényane a arrêté aujourd'hui un autre membre de l'opposition lors d'un raid mené à l'aube pour son implication dans l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple. Le point avec Saloua Jafari.
Un raid spectaculaire, les membres de la police lourdement armés ont défoncé la porte du domicile de Miguna Miguna à l'aide d'explosifs. C'est le 2e opposant arrêté après le député TJ Kajouang pour avoir participé mardi à la prestation de serment symbolique de Raila Odinga qui refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta, estimant que la victoire lui a été volée. Suite à la cérémonie d'investiture organisée devant des milliers de partisans de l'opposition à Nairobi, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a qualifié d'organisation criminelle le mouvement de résistance nationale lancé par l'opposition pour mettre en œuvre un programme de désobéissance civile. Par ailleurs, 3 chaînes de télévision sont toujours suspendues pour avoir voulu retransmettre l'investiture de Odinga. Un tribunal de Nairobi a ordonné que ces chaînes soient autorisées à reprendre l'antenne, mais le gouvernement refuse d'appliquer ces décisions.
En Afrique du Sud, les députés sont appelés à se prononcer le 22 février sur une nouvelle motion contre le président Jacob Zuma. Mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, Jacob Zuma est pressé au sein même de son propre parti à démissionner au plus vite. En Afrique du Sud toujours, 1 millier de mineurs qui étaient piégés dans une mine d'or par une panne d'électricité ont pu remonter à la surface sains et saufs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui avoir déclassifié une note confidentielle et controversée rédigée par un élu républicain critiquant l'attitude du FBI, ouvrant la voie à sa publication par le Congrès. Le point avec Timothée Donangmaï.
Elle a été déclassifiée, nous verrons ce qui se passera, a affirmé M. Trump depuis le bureau Oval, ignorant ainsi les mises en garde du patron de la police fédérale, le FBI, contre une telle initiative. Interrogé spécifiquement sur le sort du numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, qui joue un rôle crucial dans l'enquête russe, dans la mesure où son patron, le ministre Jeff Sessions, s'est récusé dans ce dossier, M. Trump a laissé planer le doute. Christopher Wray, actuel directeur du FBI nommé par M. Trump, avait clairement indiqué qu'il n'était pas favorable à cette publication. Le ministère de la Justice avait lui aussi fait part de ses réserves pour des raisons de sécurité. La note a été rédigée par le controversé président républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, David Nunes, et ce contre l'avis des membres démocrates de sa commission à partir d'informations secrètes.
D'ailleurs, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a publié la note dénonçant les méthodes du FBI quelques minutes après l'annonce par Donald Trump que cette note avait été déclassifiée. Cette note de 4 pages a été rédigée par le président républicain de la commission du renseignement, Devin Nunes, à partir d'informations secrètes sur les écoutes mises en place par le FBI contre un membre de l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016. Et Syrie, au moins 7 civils ont été tués dans des bombardements du régime visant la Ghouta orientale, enclave rebelle à l'est de la capitale Damas. Tel est le bilan annoncé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée à Londres. Et ces nouveaux bombardements interviennent alors que le régime de Damas est accusé d'avoir mené des attaques au chlore dans la Ghouta. Enfin, en Iran, la police a annoncé l'arrestation d'une trentaine de femmes à Téhéran pour avoir enlevé leur voile, dont le port est obligatoire en public. Elles perturbaient l'ordre social, affirme la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
L'Afrique connaît une urbanisation rapide. Cette dynamique est liée à une croissance démographique fulgurante et un déséquilibre entre le développement des zones urbaines et celles rurales. La population est passée de 237 millions en 1995 à 472 millions en 2015. Ils seront près d'un milliard à résider dans les villes du continent d'ici 2040. Le continent africain est l'avenir de l'industrie mondiale de la bière. La valeur du marché de la bière est estimée à 13 milliards de dollars. La moyenne annuelle de consommation par individu est de 9 litres. L'Afrique du Sud est le principal marché avec plus de 30 millions d'hectolitres par an. Le Nigeria arrive au second rang et l'Angola occupe la troisième place. Le Cameroun, la RDC, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya complètent le classement. La Tunisie s'attend à une augmentation du nombre de touristes britanniques en 2018. Fin juillet, Londres a assoupli ses recommandations aux touristes britanniques se rendant en Tunisie. Ceci a mis fin à la consigne d'annuler tout voyage non essentiel vers la Tunisie et dans les principaux sites touristiques. Le voyagiste Thomas Cook reprend sa desserte de la Tunisie à partir du Royaume-Uni en ce mois de février.
On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Sous pression de la FIFA, la CAF n'apporte pas officiellement son soutien au Maroc.
Oui, la Confédération africaine de football a respecté les consignes de neutralité de la FIFA pour le processus de sélection du pays organisateur du Mondial 2026 en s'abstenant de prendre position publiquement en faveur du Maroc. C'était aujourd'hui à Casablanca. Le Maroc espérait que la 40e Assemblée Générale de la CAF soit l'occasion d'un soutien ouvert à sa candidature présentée au nom du continent africain face au trio États-Unis, Mexique et Canada. Oui, mais voilà, à l'ouverture des débats, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé les délégués à, je cite, respecter leur obligation de neutralité. La FIFA, on s'en souvient, avait adressé une récente circulaire aux 211 représentants des fédérations membres qui doivent trancher le 13 juin entre le Maroc et le trio États-Unis, Mexique, Canada. L'Assemblée générale de la CAF coïncide également avec le CHAN 2018, vous le savez, organisé par le Maroc. On rappelle que la finale aura lieu dimanche entre le Nigeria et le Maroc, pays organisateur.
Une skieuse kényane au JO d'hiver 2018.
Et oui, la kényane Sabrina Wanchiku Simader, elle deviendra lors de ces Jeux olympiques de Pyeongchang la première skieuse africaine à disputer les Jeux olympiques d'hiver. Elle s'est déclarée honorée à seulement 19 ans. Cette jeune femme s'est qualifiée pour les épreuves de Super G et de Slalom géant lors des championnats du monde à Saint-Maurice en Suisse. Elle sera la seule représentante du Kenya. Ce sera du 9 au 25 février prochain en Corée du Sud.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Nuggets de Denver se sont imposés sur le fil contre Oklahoma City, 127 à 124, au terme d'un final haletant. Et malgré les 43 points de Paul George, les Raptors de Toronto ont laissé échapper une victoire en fin de match. Ça s'est passé passé à Washington où les Wizards ont gagné 122 à 119. Les Spurs de San Antonio ont subi une cinquième défaite à domicile cette saison face à Houston, 91 à 102. Et puis Minnesota, quatrième de la conférence Ouest, a passé une soirée tranquille en battant Milwaukee 108 à 89.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriet, que Le Monde aujourd'hui place au dossier du jour. Au Togo, suite à l'annonce de la date d'ouverture du dialogue politique prévu le 15 février, Dili Diko a joint Magloire Kwakubi, professeur de philosophie et activiste en faveur de la justice et de la paix, pour une analyse de la situation. Il nous explique pourquoi, selon lui, l'opposition et le parti au pouvoir auront du mal à se mettre d'accord sur un retour à la constitution de 92.
Il est difficile de répondre à l'heure actuelle parce que le pays était dans une perspective à deux vitesses pendant que l'opposition marchait pour exiger à la fois le dialogue et le retour à la constitution de 92. L'État, lui, préparait tranquillement les élections pour un référendum sur son projet de réforme avec quatre articles, dont le dernier dit que une fois que la loi aura été adoptée, il n'y aura pas de rétroaction. Donc on ne sait pas. Les deux disent qu'ils sont prêts au dialogue, mais pendant que les autres marchent et réclament quelque chose, les autres préparent les élections.
L'opposition organise des manifestations quasi hebdomadaires depuis 5 mois. Mais elle a convenu de la suspension des manifestations dans le cadre des consultations qui ont eu lieu le 31 janvier et le 1er février. Donc, pensez-vous que les populations vont s'y tenir?
Les populations sont réceptives actuellement à ce groupe de 14 partis. Lorsque ce groupe de 14 partis dit quelque chose, la population suit. La preuve, c'est que hier, toutes les marches se sont terminées autour de 15 heures, parce que quand les gens retournent au crépuscule de manière dispersée, on en profite toujours pour les tabasser ou leur faire des malheurs. Donc si la coalition des 14 partis dit qu'il n'y a plus de marche, personne ne bougera jusqu'à leur nouvel appel.
Ok, et au niveau des dossiers de priorité, donc le communiqué de presse disait que les deux délégations médiatrices, donc le Ghana et la Guinée, ont indiqué que les préoccupations prioritaires lors de l'ouverture du dialogue seront la situation des personnes détenues dans le cadre de l'affaire de l'incendie,
le
marché de Kara et de Lomé, ainsi que les manifestants en détention depuis 5 mois. Pensez-vous que ces personnes-là seront libérées en signe de bonne foi du gouvernement?
L'État a libéré des gens, mais pas ce que la coalition attendait. Donc si on a mis ça dans le communiqué, ça veut dire que le gouvernement a dû donner des gages de garantie pour que l'on rende au moins publique cette discussion prioritaire. Donc on peut dire que le verre est à moitié plein.
Magloire Kwakubi, joint par Dili Diko à Lomé. L'Américez-vous ce vendredi à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique. Nous évoquerons le Black History Month aux États-Unis ou le mois de l'histoire des Noirs. Les écoles, les musées, les médias célèbrent les grandes personnalités noires américaines de l'histoire pendant tout le mois de février. Ces célébrations sont-elles utiles? Pour certains, cela perpétue un certain racisme. Pour d'autres, c'est une commémoration historique utile et importante. C'est le débat que nous vous proposons ce soir à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique. Appelez-nous en direct sur le 202 205 26 33 ou laissez-nous vos coordonnées sur notre page Facebook. A tout à l'heure. Le président sénégalais Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron ont signé aujourd'hui à Dakar une série de contrats, dont la vente de 2 Airbus à la compagnie Air Sénégal pour un montant de 214 millions de dollars et la création d'un campus universitaire franco-sénégalais. Pour comprendre les raisons de cet accroissement des investissements français, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste et analyste politique Madiambal Diagne.
Il faut dire que ces dernières années, on a constaté un retour effectivement de la France dans le cadre de partenariats économiques et aussi d'investissements au Sénégal. Il faut dire quand même qu'il n'y a jamais eu de rupture, mais le fruit des investissements français s'est accru ces dernières années avec de gros contrats qui ont été conclus avec l'État du Sénégal, notamment dans le cadre du financement de la réalisation d'infrastructures hospitalières et aussi dans le cadre de la réalisation d'un projet de train express régional. Ça a pu doper vraiment les investissements français au Sénégal. Quand même la continuation d'un partenariat historique, mais aussi le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, les relations cordiales et assez proches entre les présidents Macron et Macky Sall semblent aussi conforter cette dynamique-là.
Quelle est la place de la France par rapport à d'autres investisseurs, notamment la Chine ou d'autres pays arabes?
Il faut dire que la France est le premier partenaire économique du Sénégal, de loin d'ailleurs. C'est vrai, le Sénégal avait commencé à diversifier ses relations économiques avec de nombreux autres pays du monde, comme la Chine, comme vous citez, ou d'autres pays d'Europe. Il y a aussi dernièrement la Turquie aussi qui a commencé à beaucoup travailler au Sénégal, mais quand on regarde le volume des investissements, la France est encore de loin le premier partenaire économique du Sénégal.
Y a-t-il un privilège particulier accordé à la France ou la concurrence est ouverte à tous les pays qui voudraient investir au Sénégal?
Non, il faut dire que la concurrence est bien ouverte. La volonté de diversification des partenaires économiques est affichée par le gouvernement du Sénégal et la Chine. Je pense que maintenant, tout dépend de l'intérêt que les autres pays peuvent avoir à investir au Sénégal. Est-ce que le marché sénégalais est assez attractif pour certains pays ou pas? Quelles sont les motivations des investissements français dans notre pays? Peut-être l'ancienneté des relations, la proximité culturelle et l'orientation politique diplomatique peuvent aider à ce que la France peut-être puisse investir plus que d'autres pays au Sénégal. Mais il n'en demande pas moins que les investissements étrangers en dehors de l'espace francophone, au-delà de la France, mais aussi au-delà de l'espace de l'Union européenne, commencent à être importants. La Chine, l'Inde, les pays arabes et aussi d'autres continents, comme les pays d'autres continents comme les États-Unis, comme le Brésil, comme le Canada, investissent de plus en plus au Sénégal dans divers secteurs d'activité.
Madiambal Diagne, journaliste et analyste politique à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ouverture de la conférence des hommes et femmes d'affaires libanais exerçant en Afrique aujourd'hui à Abidjan. Une première en Côte d'Ivoire qui compte une importante communauté libanaise très implantée dans l'économie locale. Regroupant plus de 500 personnes, cette rencontre dénommée Lebanese Diaspora Energy vise à attirer plus d'investisseurs en Afrique. Blanche Sanou a joint à Abidjan Daniel Brecha, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
Quand on parle d'opérateurs économiques libanais, c'est bien entendu pour faire du business, voir comment on peut mieux gagner de l'argent. L'objectif second est de peut-être d'avoir une visibilité, un meilleur contact avec les autorités ivoiriennes, les opérateurs économiques ivoiriens. Essayer peut-être de diffuser un peu aussi la culture et la culture économique libanaise en Côte d'Ivoire.
Quelle est l'importance de la communauté libanaise dans la vie sociale et économique en Côte d'Ivoire?
Au moins 30 à 40% de l'économie ivoirienne est entre les mains des opérateurs économiques libanais ou ivoiro-libanais.
Ils sont dans quel genre d'activité précisément en Côte d'Ivoire?
Dans tous les domaines. Petite industrie, grosse industrie. Pendant longtemps, ils étaient juste dans le commerce, import, export, etc. Mais il y a des groupes libanais importants qui se sont créés, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie du fer, du plastique, et puis, bien entendu, maintenant dans la grande, grande distribution.
Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous faire une lecture un peu des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban aujourd'hui?
Oui, bon, les relations économiques sont bonnes parce que, bon, les opérateurs économiques libanais sont, certains sont installés depuis deux générations. Et les relations ont toujours été bonnes et puis surtout, un grand nombre ont la double nationalité ivoirienne et libanaise. Bon. Par ailleurs, l'environnement politique, sécuritaire du Liban est loin d'être apaisé. Donc, les Libanais considèrent que la Côte d'Ivoire, c'est leur deuxième pays, voire pour certains, leur premier pays.
Daniel Brécha, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À Calais, en France, de violents affrontements ont lieu entre migrants. On dénombre 22 blessés et le pronostic vital de 4 Érythréens est engagé. Ce type d'affrontement est récurrent dans la région où des centaines de migrants continuent d'affluer en espérant pouvoir traverser clandestinement la Manche, souvent à l'aide de passeurs. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants à Calais.
La journée d'aujourd'hui a été relativement calme, même s'il y a des rumeurs de revanche des Afghans contre les Érythréens. Alors si on revient sur les événements d'hier, donc il y a eu cette fusillade, ce sont des passeurs. Quand on parle de passeurs, il faut parler des représentants des passeurs, des petites mains des passeurs, qui ont tiré sur des Éthiopiens ou Érythréens. En fait, il s'agissait de les éloigner d'un lieu de distribution que les passeurs essaient de se garder, de se monopoliser pour eux et pour leurs clients, entre guillemets. Ensuite, s'en est suivi des contre-attaques, notamment par un groupe d'Éthiopiens qui se sont procurés, on ne sait pas trop comment, des barres de fer ou des gros morceaux de bois et qui sont venus rue des Verrotières pour taper sur des Afghans. Ça n'a pas duré longtemps parce que la police est intervenue tout de suite et nous, on a stoppé notre distribution, évidemment, aussi. Tout de suite, on est parti. Il ne s'agit pas de conflits entre communautés. Il s'agit d'une part d'agression de passeurs afghans contre des gens de la Corne de l'Afrique et de tentatives de ces Éthiopiens érythréens de riposter, de se défendre, en fait.
Alors, ces affrontements sont apparemment récurrents, mais c'est quand même la première fois qu'ils sont aussi violents.
Oui, c'est vrai. Dans ma mémoire, il n'y a pas eu d'affrontement si violent avec autant de blessés. Il faut relier ça aussi à la tension actuelle qui règne à Calais, avec des gens très tendus, d'une situation très tendue à cause des très mauvaises conditions de vie, à cause de la pression de la police qui patrouille en permanence et qui détruit toute tentative d'installation de tentes ou de bâches et qui même emporte les affaires personnelles des migrants. Et la venue de M. Macron n'a pas arrangé les choses parce que il y a eu des perspectives de rapprochement familial avec la Grande-Bretagne qui ont été évoquées, mais sans précision. Du coup, il y a des gens qui sont arrivés avec beaucoup d'espoir et leurs espoirs étant déçus, sont à nouveau dans la colère ou l'amertume ou la dépression. Donc l'ambiance ici est très, très mauvaise.
Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour améliorer la situation?
Alors, il faudrait trouver des vraies solutions pour Calais. Ici, il faut savoir que la majorité des gens présents sont des Dublinais, donc des gens qui ont laissé leurs empreintes en Italie, en Grèce ou ailleurs et qui savent que s'ils demandent l'asile en France, ils seront expulsés. On a un deuxième groupe moins important qui est de constituer de déboutés du droit d'asile. Ces gens-là, il faudrait pouvoir les autoriser à rester provisoirement en Europe en attendant qu'ils puissent rentrer dans leur pays en guerre, comme le Darfour ou l'Afghanistan ou les dictatures comme l'Érythrée. Il y a aussi beaucoup de mineurs et il faudrait véritablement remettre sans tarder en route les possibilités de rapprochement familial avec la Grande-Bretagne et aussi la possibilité de prise en charge des personnes fragiles votées par le Parlement britannique.
François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants à Calais.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RMShow. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Lionel Gaïma, Morgane Guiriec, à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.